9h-10h, AVS avec Philippe Robichon.
Bien le bonjour, chères auditrices et auditrices. Et oui, mon cher Philippe, les auditrices sont à l'honneur. Saint-Valentin oblige. Je vois d'ailleurs que vous avez anticipé votre soirée avec Madame Robichon. Vous êtes venue dès le matin avec ce joli smoking. Vous êtes bien coiffée. Et ouais, vous sentez bon, tiens, pour une fois, mon cher Philippe. Alors, ouais, c'est vrai qu'aux yeux des plus religieux, c'est une fête de kofar. Mais nous, on s'en fout. On aime la Saint-Valentin. On est des bolos. On offrira des fleurs à notre moitié qui faneront dans 4 jours. On ira au restaurant avec notre moitié. Tout ça pour que ça finisse aux toilettes. On offrira un petit cadeau à notre moitié. Bref, une putain de soirée à environ 500 boules. Et tout ça, pourquoi? Bah, juste pour être tranquille, hein, tous les autres jours de l'année. Bah oui, les femmes font une fixette sur cette fête. Oui, t'as vu, il m'aime. Normal, le marketing est passé par là. Cette fête ultra commerciale est entrée dans les mœurs. Fleurs, resto, cadeaux, tiercés gagnants, des commerçants. Mais cette Saint-Valentin, mon cher Philippe, a au moins le mérite de me remémorer ma jeunesse. Eh oui, t'as 16-17 ans, t'as une petite minette qui te plaît. Encore que je me demande, mon cher Philippe, si le terme minette est aujourd'hui acceptable. Et en plus, oui, il me semble désuet. Plus personne ne dit minette. Et je crois d'ailleurs que plus personne ne dit désuet non plus. Décidément, le vocabulaire qu'on utilise trahit notre âge. Bref, t'as entre 16-17 ans, t'as pas une thune, mais tu sais que si tu veux conclure, comme dirait l'autre, c'est le jour ou jamais où tu dois jouer le rôle de Mr. Love. Alors, à cet âge-là, ton plan Saint-Valentin, pour ne pas dire, mon cher Philippe, ton plan cul, c'est d'inviter celle qui
non,
sera...
Non, ne le dis pas, oui.
Non, je ne le dis pas. Ta moitié au McDo. Alors, quand je dis ta moitié, c'est une manière de parler, hein. Hein, ce sera ta moitié de 3 mois. N'oublions pas que dans mon exemple, t'as 16-17 ans. Hein. Il ne s'agit pas de te marier ou de fonder une famille. À cet âge-là, c'est uniquement, exclusivement, mon cher Philippe, une histoire de fesses et rien d'autre. Ben oui, mademoiselle, les sentiments, nous, les mecs, eh ben, on s'en balèque. Alors, je sais que ce que je vais vous dire ne vous fera pas plaisir à entendre, mais la vérité, c'est que les mecs, en particulier quand ils font les bolos, c'est tout simplement pour vous déslipper. Mais je m'égare. Et là, hop, après un McDo, allez, grand prince, au ciné avec ta copine. Et tu te dis que tu vas attendre le moment, là, dans la pénombre de cette salle de ciné. Tu vas tenter un petit bisou, un petit plotage de ins, comme dirait l'autre. Vite fait, histoire de rentabiliser ton investissement. Je vois que ça vous rappelle des souvenirs, mon cher Philippe. Mais je vois aussi que le temps passe. Alors, je vais vous laisser avec ces beaux souvenirs. Je terminerai mon histoire un autre jour. Pour le moment, nous attendons les appels, a priori, des demoiselles, hein, exclusivement, au 01 53 48 3000. Si tant est que les demoiselles soient capables de faire le numéro de téléphone pour poser les questions. Émission sous le contrôle de notre lover à nous, monsieur Philippe Robichon. À vous, maestro.
Maître Serran, alors effectivement, vous avez retouché votre chronique, mais dans la version originale, il y avait le nom que vous donniez à la Saint-Valentin quand vous étiez plus jeune.
Oui, c'est vrai.
Heureusement, vous l'avez enlevé. Hein.
Je l'ai enlevé, mais, oui, mais c'est vrai que quand on était plus jeune, voilà, là, entre potes, on appelait la Saint-Valentin. Pardon de le dire.
Non,
comme
non,
ça,
c'est pas non, non, on va pas le dire.
Mais on le dit pas.
Non, on dit bon, pas. Mais on imagine que non. Non, ah ben non, Zora, non. Ah, bon, non, non, parce que là, Zora, vous allez partir en.
Ah, pourrait.
Ah non.
Bon, bon, en tout cas, on appelait ça comme ça et ça nous amusait. Mais bon, quand on est gamin. Bon, vite fait, on appelait
non,
ça là.
Non, mais non,
on n'a pas le droit. Bon,
non,
je non, le
non, après, elle va dire j'ai les oreilles qui saignent.
Voilà, bon, je le dis pas.
Bien, Maître Serran répondra à vos questions tout à l'heure au 01 53 48 3000. Donc, vous avez un budget de 500 euros pour la Saint-Valentin, vous?
Bah,
c'est pas mal quand même. Un budget de 500 pour la.
C'est plus que pas mal.
Ah ouais.
Bah, c'est plus que pas mal. Ce jour-là, il faut faire le prince.
Est-ce que Madame Serran écoute là? Parce que 500 euros.
Non, Madame Serran n'écoute pas, c'est pour ça que j'ai donné ce montant-là.
Et vous l'emmenez dîner chez le chef voilà ce soir?
Non, ce soir, elle restera à la maison avec les enfants et puis j'irai faire le beau. Voilà.
Bien, allez, Maître Serran, on va parler des modalités de placement d'un enfant sur décision de justice. D'abord, qu'est-ce que c'est qu'un placement?
Alors le placement,
terme, ouais.
le terme placement. Alors d'abord, on est dans un contexte, comme dirait l'autre, qui en droit on parle de contexte grave, puisque placer un enfant, ça veut dire que on considère qu'il y a un danger qui concerne cet enfant. Alors sur le plan psychologique, sur le plan physique, donc on considère que cet enfant n'est pas entre guillemets sous la protection des parents, une protection légitime, et donc si les parents ont démissionné, si les parents ne peuvent pas s'occuper de l'enfant, si les parents ont fait preuve de violence physique ou morale, l'institution va intervenir pour protéger cet enfant. Le placement, c'est la protection de l'enfant. On va retirer cet enfant de sa famille au sens strict du terme, papa et maman. Et cette mesure est prise à la suite d'une procédure plus ou moins longue. Alors, on considère que c'est beaucoup trop long quand la situation ou la santé des enfants est en danger. Ça commence d'abord par un signalement. Alors, le signalement, ça peut être le signalement qui est fait par un voisin, le signalement qui est fait par un établissement scolaire. Et c'est le procureur de la République, donc, qui, une fois le signalement fait, va de son côté saisir le juge pour enfants. Et c'est le juge pour enfants.
Il n'y a pas une enquête avant ?
Alors, en règle.
Parce que normalement, il faudrait quand même qu'il y ait une enquête.
Comme dirait l'autre, en principe, y avoir.
Les services sociaux, enfin.
Une enquête, mais il peut y avoir un signalement immédiat. Et si on considère, encore une fois, qu'il y a danger, lorsque le procureur de la République va saisir le juge pour enfants, c'est le juge pour enfants qui va reprendre la main et mener cette fameuse enquête. À partir du moment où l'enquête est menée, à partir du moment où on a auditionné, alors d'abord le premier concerné, hein, l'enfant, où on a auditionné les membres de sa famille, le juge pour enfants donc va être amené à prendre une décision, encore une fois, qui peut être une décision grave, puisque retirer un enfant de sa famille, ça reste une décision grave, sur des éléments qui sont quand même fondés et sérieux. Voilà. La difficulté qu'on a eue souvent dans ce type de dossier, c'est qu'évidemment, par définition, on n'est pas tous sur la même longueur d'onde. Et dans le doute, lorsque les parents soutiennent mordicus que les déclarations qui ont été faites ne sont pas la vérité ou qu'il y a eu des exagérations, le magistrat, dans le doute, va quand même assurer la protection de l'enfant. On intervient toujours dans l'intérêt de l'enfant. Et donc, cet enfant va être écarté de sa famille. Alors, écarté de sa famille, ça veut dire soit relevé d'une institution comme l'aide sociale à l'enfance, donc placé dans une autre famille, éventuellement, ça arrive parfois, placé au sein de d'autres membres de la famille, donc ça peut être une tante, ça peut être un cousin. On essaie autant que faire se peut de tenir compte de la volonté du gamin. Tout dépend évidemment aussi de son âge. Et à partir de ce moment-là, alors on s'en rend pas compte, mais quand on met le doigt dans l'engrenage, alors que le signalement soit fait par une personne extérieure, par le procureur de la République, par la famille elle-même, c'est-à-dire qu'il arrive aussi parfois que papa ou maman ou les deux disent qu'ils sont pas en état, en capacité de s'occuper de leur enfant. Donc ça part d'un bon sentiment. La difficulté, c'est que dans ce type de situation, il est parfois très difficile de revenir en arrière.
Quelle est la durée du placement ? Est-ce qu'elle est dès le départ
Alors le magistrat, en règle générale, voilà, on n'a pas. Alors d'abord le placement maximum que pourrait être ordonné un magistrat est de 2 ans, renouvelable. Hein, faut faire attention à ça. Mais le magistrat, quand il rend sa décision, donc on précise, donc 3, 4, 5 mois. Donc il y a une date entre guillemets butoir, et lorsque le timing arrive à expiration, donc on va reconvoquer toutes les parties. Et le magistrat va se baser sur quoi ? Le magistrat, en fait, alors en dehors des déclarations du premier concerné, de l'enfant, éventuellement de sa famille, de ses parents, vous allez avoir un rapport très souvent de l'aide sociale à l'enfance. Alors c'est terrible parce que la famille est pas toujours synchrone avec les déclarations de l'aide sociale à l'enfance, et qu'on le veuille ou non, c'est quasi mathématique, entre le rapport de l'ASE et les déclarations des uns et des autres, sincèrement, et on le dit aux clients quand on a ce type de dossier, on a rarement une surprise, c'est-à-dire que le magistrat ne va pas prendre l'ombre d'un risque et va se caler sur le rapport de l'ASE. Donc si l'ASE dit ben d'accord, il y a eu un placement de quelques mois mais on considère que c'est pas suffisant, boum, on est certain que ça repart.
Qu'est-ce qui se passe pour ce qui concerne l'autorité parentale pendant le placement d'un enfant ? Est-ce que elle est toujours exercée par les parents ?
Alors le retrait de l'autorité parentale n'est pas automatique, c'est-à-dire que le magistrat, s'il considère qu'il n'y a pas de mesure à prendre en la matière, peut toujours permettre aux parents d'exercer l'autorité parentale. Alors, avec un bémol, quand vous avez l'autorité parentale, vous décidez, j'allais presque dire, des allers-retours de votre gamin. Sauf que là, bien évidemment, si l'enfant est placé, même si vous avez l'autorité parentale, vous ne pourrez jamais appeler les services de placement pour dire « je suis le père, la mère, j'ai l'autorité parentale, je viens récupérer mon gamin ». Mais on va pas automatiquement vous le retirer. Il arrive hein, parfois que le magistrat le fait dans des situations qui sont graves et qui sont malheureusement parfois justifiées.
Maître Serran, si les parents constatent qu'il y a un placement qui est abusif, quels sont leurs les recours qu'ils ont?
Alors, sincèrement, c'est... Alors, très souvent...
Parce qu'on entend beaucoup de parents qui galèrent à récupérer leurs enfants et qui estiment qu'il y a eu un placement abusif.
C'est une réalité parce que le magistrat prend une décision. Si elle ne vous plaît pas, vous pouvez la contester. Vous avez un délai très court qui est de 15 jours, mais on peut comprendre ce délai. On est en train de parler d'une situation qui concerne un gamin. Sauf que vous avez 15 jours pour interjeter appel, comme on dit, mais le temps que ce soit audiencé devant la cour d'appel, je peux vous assurer que ça prend plusieurs mois. Et pendant ce temps-là, l'enfant restera placé. Donc, ça reste quand même vraiment des situations qui sont très difficiles à contester. Je le redis, une fois que vous avez le doigt dans l'engrenage, l'institution a du mal à vous refaire confiance. Et puis, je vous l'avais indiqué, pourquoi j'ai voulu traiter de ça, c'était par rapport à l'actualité concernant cet enfant.
Cet enfant, oui. Voilà, qui avait été placé par l'ASE.
Qui avait été placé par l'ASE. Et puis, aujourd'hui, on est en train de dire, et je suis le premier à dire, que je considère parfois que des placements sont des placements. Alors, je vais mettre des guillemets quand même, c'est pas le cas pour tout, mais on a parfois des placements abusifs. Sauf que lorsqu'on considère que la mère ou le père, en l'occurrence, la mère de cet enfant est ou serait en état de s'en occuper et qu'on a la situation qui s'est produite, il est certain qu'ensuite on se remet un peu en question en se disant, bon alors est-ce que l'ASE, quand elle est parfois compliquée, quand elle est parfois même pénible, est-ce que ça la conforte pas non plus dans cette situation? C'est-à-dire qu'ils sont hyper prudents, on peut l'entendre et le comprendre, mais ce qui est terrible dans cette situation, indépendamment de cette vie explosée de cette jeune femme et de la situation du gamin, c'est que les magistrats, évidemment, vont être aussi marqués par ça, et dans des situations où on pouvait se dire, c'est quand même jouable de pouvoir récupérer l'enfant, et ben les juges vont se poser la question à plusieurs reprises pour savoir si je permets à l'enfant d'aller ou de quitter le centre et d'aller voir ses parents, est-ce que cet enfant ne sera pas potentiellement en danger? C'est parfois le contre-coup de ce genre de situation.
Est-ce que ce sont des procédures où il faut faire appel à un avocat?
L'avocat n'est pas obligatoire, mais franchement, s'il y a bien un domaine où il est fortement conseillé, c'est quand même ça, parce que l'institution a beaucoup de mal. Alors, elle n'a pas beaucoup de mal à retirer votre enfant, encore une fois, dans un premier temps, c'est toujours dans l'intérêt de l'enfant, mais pour pouvoir le récupérer, si vous ne les travaillez pas au corps, si vous ne faites pas les recours, et des recours pour mettre le forcing, c'est très difficile de pouvoir récupérer son ou ses gamins si vous n'avez pas d'avocat. Mais par définition, en la matière, il n'est obligatoire ni devant le premier magistrat, ni devant la cour.
Bien, Maître Serran, alors vous pourrez poser vos questions en direct dans un instant, Maître Serran, au standard 01 53 48 3000, émission spéciale Saint-Valentin. Donc et Maître Serran vous invite, mesdames, à l'appeler. Merci de votre patience. Si vous ne souhaitez pas passer à l'antenne ou que vous voulez évoquer un cas avec Maître Serran, vous pouvez également l'appeler sur son téléphone portable.
06 62 58 59 64, 06 62 58 59 64.
Voilà, et vous pouvez envoyer un mail également
sur maître.serran@gmail.com, maître.serran@gmail.com.
Toutes vos questions dans un instant au 01 53 48 3000.
AVS revient dans un instant. 9h-10h, AVS avec Philippe Robichon.
Voilà, dans un instant, vous poserez vos questions à Maître Serran au 01 53 48 3000. Alors, on a Ouria qui voudrait peut-être vous parler de la Saint-Valentin, Maître Serran.
On a dit que les femmes.
Oui, mais ben Ouria, c'est quoi? Oui, Ouria. Ouria, c'est
d'accord,
bon.
D'accord.
Ça fonctionne, eh Ouria. Oui, bienvenue, oui. Ouria.
Bien sûr, Ouria.
Oui, bonjour.
Bonjour, Ouria.
Oui, alors, c'est pas Saint-Valentin. Oui, je vous appelle pour la Saint-Valentin, mais j'habite à Lyon.
Oui.
Oui, alors, je voulais dire, je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est devenu commercial, mais extrêmement commercial. Et le souci, c'est que on s'engouffre toutes là-dedans en disant, oh, il va penser à moi. Et tout le long de l'année, il y a 365 jours, qu'est-ce qu'il fait, le monsieur? Il pense pas à vous? Mesdames, réveillez-vous. Donc voilà, je voulais vous dire que moi j'étais contre cette fête-là, tout simplement parce que c'est toute l'année qu'on pense à son conjoint et pas que simplement un jour.
Mais vous êtes en couple, Ouria, ou vous vivez seule?
Alors, commencez
pas. Oui, en couple depuis 28 ans, mariée, deux grands enfants.
Ah bah oui.
Effectivement, même au début, j'étais contre cette fête. C'est comme la fête des fête de la maman, fête papa. Ouais. Non, je suis désolée. On devait qu'il y a plus de... J'ai l'impression qu'il faut renouveler le sentiment, dire aux gens, et attention, aimez-vous. Mais on aime son conjoint ou on aime la personne avec qui on partage sa vie, c'est tous les jours. C'est tous les jours qu'on doit faire des efforts, c'est tous les jours qu'on doit l'écouter, c'est tous les jours. C'est tous les jours, même si on est en opposition avec ses idées, c'est tous les jours qu'on doit partager sa vie. C'est pas juste pour un moment, un bouquet de fleurs, voilà, un repas. Le repas, on peut le faire tous les jours de la semaine. On n'a pas besoin d'attendre la Saint-Valentin.
C'est vrai.
Bah, voilà, Serane, vous avez tué Maître Serane, là. Alors là, Ouria, là, Maître Serane est dans un seau, là.
Tout est tombé à l'eau.
Ah,
mais le truc, c'est qu'elle a raison. Non, mais Ouria, je suis d'accord avec vous. Le truc, c'est ça, en fait. Et ce qui me désole, c'est que vous ayez raison. Et vous avez raison, c'est effectivement l'aspect purement commercial. Mais bon, en même temps, si on peut ce soir-là, c'est un petit truc un peu magique, un petit peu particulier, ce serait aussi bien. Mais vous avez raison.
Ouais.
Bon, merci Ouria d'avoir plombé la matinée.
Merci, mais je crois.
Vous serez blacklisté.
Hein. Non, elle croit l'amour. C'est un message d'amour. L'amour, hein. L'amour tous les jours.
D'accord, l'amour tous les jours.
La discussion avec son conjoint, partager des idées, partager même des points de vue différents.
Ouais.
C'est ça qui fait la force d'un couple.
Oui, c'est vrai. C'est pas vrai.
Voilà.
C'est une croyance exclusivement féminine. Hein. En règle générale, les types ne raisonnent pas comme ça.
Les hommes aussi raisonnent comme ça. Mais c'est juste que la personne soit en face d'elle et leur ouvre les yeux en disant c'est pas parce qu'on n'est pas d'accord sur un sujet qu'on doit se prendre la tête. On a le droit d'avoir des opinions différentes. Et c'est ce qui fait la force d'un couple.
C'est vrai. Sous réserve de garder son physique frais, parce que moi, le reste, la moralité, tout ça, je m'en fous. Moi, ce que je veux, c'est que ma femme soit belle tout le temps avec la peau douce. Le jour où elle l'aura pas, au revoir, Madame Serane.
Ah non, c'est tout. Pas si, Madame Serane.
Je vous le dis.
Madame Serane, je lui parle. Mais est-ce que monsieur est comme ça aussi? Est-ce que monsieur prend soin de lui? Est-ce que monsieur va faire du sport? Est-ce que monsieur prend soin de lui?
Monsieur Serane est un grand sportif.
Et est-ce que monsieur a la peau douce? Hein?
Maître Serane a la peau douce.
Ah ouais? Et est-ce qu'elle restera avec lui encore?
C'est pas certain.
On fait un gros bisou, Ouria.
On vous embrasse, Ouria.
Allez, je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous. Hein.
Merci. Bonne route. Alors, Safia est avec nous et c'est Grenoble qui nous appelle. Safia, bonjour et bienvenue.
Oui, bonjour Philippe. Bonjour Maître Serane.
Bonjour Safia.
Voilà, c'est Safia de Grenoble. Voilà, moi, c'est pour une question pour Maître Serane. J'ai ma maman qui a divorcé. En 64 à peu près, mais bon, on n'est pas sûr si elle avait divorcé à l'époque ou pas.
Ouais.
Et elle a refait sa vie beaucoup plus tard, 15 ans après. Le mariage à ma maman, il s'est passé en France. En fait, elle s'est mariée à Paris.
Alors, le mariage de 64
non,
c'est la séparation en 64.
Voilà, la séparation à peu près en 64.
D'accord. Donc,
le divorce.
Voilà, donc il y a de facto, il doit y avoir, puisque vous n'avez pas l'air sûr, il doit y avoir une décision.
C'est-à-dire, bon, ma maman, elle s'est mariée, on est d'origine algérienne. Mmh. Hein. Ma maman, elle s'est mariée à Paris à l'époque. D'accord. Mes grands-parents étaient à Paris.
Oui.
Elle s'est mariée à Paris. Et le divorce, soi-disant, s'il y a eu divorce, on ne sait pas, parce que ma maman n'a pas assisté au divorce à l'époque. Mon papa est tombé malade psychologiquement, donc il s'est jamais présenté. C'est pas lui qui a demandé le divorce, c'est mon grand-père maternel.
On parle d'une procédure de divorce sur le territoire français.
Non, le territoire algérien, parce qu'après, à l'indépendance,
d'accord,
ils sont rentrés en Algérie. Voilà. Donc, après, beaucoup plus tard, ma maman, elle s'est remariée, sans aucun problème. Et là, on a voulu faire une frida pour des affaires de famille, un héritage. Le notaire, on a trouvé que ma maman n'a jamais été divorcée.
D'accord.
Voilà. Et pourtant, elle s'est remariée en Algérie.
Enfin, en Algérie, dans les pays musulmans, ça pose pas de difficulté. Le fait de se remarier comme ça, ce qui me semble surprenant, c'est que, par définition et en principe, à partir du moment où quelqu'un a engagé la procédure, il y a forcément une trace quelque part. Et là, en vous écoutant, j'ai l'impression que vous n'êtes pas sûr du tout de cette éventuelle procédure de divorce qui a pu être engagée par X ou Y.
Bien sûr. Oui, parce qu'à l'époque, en fait, celui qui a engagé cette procédure de divorce, c'est mon grand-père maternel.
D'accord. D'accord.
Et ma maman ne l'accompagnait pas, il allait tout seul.
Oui, alors c'est vrai que voilà, il y avait ce système de représentation, je suis d'accord avec vous.
Voilà.
Ouais.
Voilà. Ça se faisait et ben après bon mon grand-père, bon il a annoncé à la famille soi-disant voilà, ça y est, elle est divorcée. Mais ma maman, elle s'est jamais présentée et mon papa ouais. non plus parce que bon mon père déjà il était pas dans en état. Et donc et voilà. Et là, ça ressort comme quoi, bah là, ouais, il n'y a alors, jamais...
Il va falloir jouer un peu les archéologues, mais vous avez quand même des éléments, puisque vous me dites que ça ressort des documents du notaire, donc ça vous permet de remonter un peu le courant et de voir précisément quel est éventuellement le service, la juridiction qui a pu prononcer le divorce à l'époque.
Et ben justement, nous, on est allés sur Alger... Et ils nous ont dit, il n'y a rien. On n'a rien trouvé, il n'y a pas d'acte. Mais
alors, l'information que le notaire vous a communiquée, il la tient de qui et d'où? Puisque cette information-là, vous me dites que c'est le notaire qui vous la donne.
Pas tout à fait le notaire. C'est-à-dire, le notaire, il nous a demandé l'acte de divorce qu'on n'a pas trouvé. Introuvable. Il n'y a pas de divorce.
Ouais.
En Algérie, il n'y a pas de divorce.
Donc ça voudrait dire que votre maman est toujours restée mariée avec...
Voilà, avec mon papa, et elle s'est remariée par la suite avec quelqu'un d'autre, et c'est ça qu'on a trouvé bizarre, parce qu'en Algérie, quand même, une femme ne peut pas prendre deux maris.
Ouais, mais alors là, je sais pas quoi vous dire, c'est quand même assez particulier, mais comme dit, il va falloir effectivement creuser, je le redis, la seule piste que vous avez pour l'instant, c'est l'éventuel... information du notaire pour cette histoire de Fleda, mais oui, vous êtes obligé de vous rapprocher du tribunal compétent pour voir si tant est que ce soit un tribunal qui ait prononcé le divorce. Mais c'est encore une fois, il y a beaucoup de familles où il s'est passé des choses il y a quelques années, et puis peut-être qu'à l'époque, comme dit Haute, ils s'en rendaient pas compte, il y avait pas besoin d'être hyper carré, sauf que ça ressort sur les générations suivantes, et après c'est un vrai casse-tête pour essayer de reconstituer le puzzle. Mais à part démarrer l'information du notaire et remonter le courant, je peux pas vous dire grand-chose par rapport à ça, hein.
Et voilà, parce que bon, nous, on nous a conseillé de prendre un avocat et que ma maman demande le divorce.
Bah oui, le truc, c'est que imaginez deux secondes que la procédure a déjà eu lieu à l'époque, parce que vous êtes même pas sûr. Alors vous pouvez prendre ce risque-là, dire on va prendre un avocat, on va engager la procédure et puis on verra bien ce qu'on nous dira. C'est-à-dire que si la juridiction dans les archives dit non, mais attendez, il s'avère que. Eh ben, votre avocat se désistera, comme on dit, se retirera. Et si effectivement, il n'y a jamais eu de procédure officielle de divorce, il n'y a rien qui interdit, oui, de l'entamer maintenant. Mais oui, là, l'avocat, parce que c'est un sac de nœuds, votre histoire. Donc, l'avocat s'impose, je vous confirme.
C'est très compliqué, hein, parce qu'au fait, comme même là, par rapport à la retraite de mon papa, il y a eu plein de complications. Donc,
non, mais il y a forcément une incidence avec l'histoire de pension de réversion et autres. Donc oui, il y a forcément une incidence. Mais oui. Vous avez raison, essayez peut-être de faire comme si de rien n'était. C'est-à-dire que vous allez engager la procédure sans vous dire peut-être qu'elle est divorcée. Mais vous le saurez très vite. En tout cas, l'avocat le saura très vite. Et si la juridiction laisse entendre que cette procédure n'a pas lieu d'être, eh ben vous vous désisterez. Enfin, votre avocat se retirera.
D'accord. Parce que comme ça date de longtemps, les années 64-65, après, au niveau archive aussi en Algérie, on ne sait pas. Hein, c'est pas facile.
Je suis d'accord avec vous.
Voilà. Ouais. D'accord, ok. Voilà, c'est ça que je voulais savoir.
Bien, merci Safia pour votre question.
Et bon courage à vous.
Ok, je vous remercie. Merci, au revoir.
Safia. Gros bisous Safia. Alors, nous avons Abdel qui nous appelle au 01 53 48 3000.
Abdel n'est pas une femme quand même.
Ah non, mince. Oh, ah ben là, Abdel Mohamed ou Mohamed
On le prend.
À l'Abdel. Bienvenue Abdel.
Oui, bonjour Abdel de 95. Bonjour Philippe, bonjour
Monsieur Abdel.
J'ai une question, s'il vous plaît. Est-ce que je peux faire la demande de la naturalisation française, sachant que j'ai pas encore ma carte de résident?
Non, il faut commencer par respecter les étapes. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez officiellement l'autorisation de résider sur le territoire français, vous pourrez y penser par la suite. À moins évidemment, mais ça c'est pas une histoire de naturalisation, à moins évidemment que vous considériez que dans votre filiation, vous pouvez éventuellement bénéficier de ce qu'on appelle un certificat de nationalité française. Donc, il y a des conditions à réunir, mais ça n'a rien à voir avec la naturalisation.
Oui, je réunis toutes les conditions. Je suis marié depuis 5 ans, père d'un enfant. Ma femme est française, ma fille est française.
Ah d'accord, mais vous avez déjà un titre de séjour.
Oui, bien sûr.
Ah d'accord, mais je n'avais pas compris la question dans ce sens-là. Ah. Bah, monsieur, à partir du moment où effectivement vous êtes sur le territoire français de manière régulière, que vous avez un certain nombre d'années de présence, que vous travaillez...
Mariage, ça fait plus de 5 ans que je suis marié, j'ai des fiches de paille, je travaille... je pense les conditions, toutes ces conditions-là, je les remplis.
Alors, il y a rien qui, j'allais presque dire, juridiquement s'y oppose. Sachez quand même que même quand on réunit toutes les conditions pour être français, pour être naturalisé, c'est une prérogative de l'État français, mais c'est comme ça pour tous les pays du monde. J'ai le droit, moi, de donner ma nationalité à qui je veux. C'est-à-dire que même si vous avez toutes les conditions réunies, on pourrait vous dire non, à charge pour vous éventuellement de contester, mais voilà, c'est pas parce qu'on réunit les conditions qu'à 100% ça va être accepté. Ils pourraient vous tacler parfois sur des détails, après ça vaudrait éventuellement le coup de contester. Mais de ce que vous êtes en train de me dire, oui, vous réunissez les conditions pour à minima déposer un dossier.
D'accord, ça veut dire que j'ai pas besoin de faire la demande de la carte résidente, sachant qu'il prend beaucoup de temps, Et j'ai besoin d'un stage, en fait. À côté de
Mais vous avez quoi comme titre, là, monsieur ?
Là, une carte de 2 ans.
Ouais, alors, non, c'est pas pareil. C'est-à-dire qu'enfin, c'est pas pareil. On demande quand même, en tout cas, les autorités françaises considèrent qu'il faut une certaine, j'allais dire, stabilité sur le territoire français. C'est vrai qu'un titre de 10 ans serait, entre guillemets, le bienvenu. Alors, vous pouvez tenter comme ça, mais il pourrait se dire, bon, on va attendre quand même que sa situation administrative en qualité d'étranger soit d'abord stabilisée. Donc, après, à vous de voir, est-ce que ça vaut le coup d'engager la procédure en vous disant, il y a ce côté, une certaine fragilité, ou alors est-ce qu'il faut consolider votre position et puis faire ça par étapes, demander d'abord le titre de 10 ans et ensuite solliciter la nationalité française. Mais pourquoi, il y a une urgence là pour être français ?
Non, pas... Bon, en fait, là, j'ai des démarches à faire pour faire la demande de carte de 10 ans.
Ouais.
Il faut faire un stage et tout, etc. J'ai dit, tant qu'à faire, j'ai fait les démarches pour faire la naturalisation.
J'entends bien, mais faites attention aux obstacles qu'on essaie de franchir trop rapidement, parce qu'on peut chuter, et puis l'administration est un peu compliquée, pour pas dire pénible. Et donc, c'est vrai qu'il vaut mieux faire ça par étapes, pour être certain de votre truc, ouais, franchement.
Bah parfait, je vous remercie beaucoup.
Merci à vous pour votre appel.
Et bon Saint-Valentin à tous. On va gâter nos femmes ce soir.
Et allez, yalla, bonne Saint-Valentin à tous.
Merci, c'est gentil.
Ouais, il y aura du slip ce soir.
Non, Maître Serran, merci Abdel.
Au revoir, merci, bonne soirée.
Bien, je vous rappelle que Maître Serran a demandé en priorité à parler aux femmes aujourd'hui. D'ailleurs, vous êtes les bienvenus, mesdames, pour nous appeler au 01 53 48 3000 si vous voulez poser vos questions à Maître Serran. 01 53 48 3000.
AVS revient dans un instant. 9h-10h, AVS avec Philippe Robichon.
Et Maître Serran, au 01 53 48 3000. Tiens, alors, les femmes qui vous appellent Maître Serran, il y a... Alors, est-ce que c'est Kenza ? Peut-être que c'est Kenza, oui. Kenza qui vous appelle, Maître Serran. Bienvenue, Kenza.
Oui, bonjour.
Bonjour, Kenza.
Ça va longtemps à tout le monde.
Alors, Kenza.
En fait, j'ai une question pour le maître à le poser, si possible, s'il vous plaît. J'ai mon grand-père, concernant mon grand-père, il avait fait l'armée française en 1939. Et puis après, il était rappelé pour faire la guerre de l'Allemagne en 1940, jusqu'en 1941. Et du coup, on a fait un courrier au ministre de l'armée. Des archives pour l'armée. Donc, on a envoyé la carte militaire de mon grand-père. Et du coup, moi, aujourd'hui, on voulait faire des papiers français par rapport à mon grand-père. Donc je voulais poser cette question, est-ce qu'on a le droit ou on n'a pas le droit?
Alors, au moment où je vous parle, par définition, vous avez toujours le droit de le faire, mais c'est important de savoir que c'est pas parce que le grand-père a participé à la guerre, que ce soit la Première ou la Deuxième Guerre mondiale, sous le drapeau français, que de facto, automatiquement, on va vous attribuer la nationalité française. Il y a beaucoup de déceptions par rapport à ça, mais c'est pas une condition qui va obliger les autorités françaises à dire bah oui, juridiquement, il n'y a pas de problème. Donc voilà, hein, ne mettez pas tous les espoirs dessus. Alors, il n'y a rien qui vous interdit de solliciter un certificat de nationalité française en invoquant cette situation avec l'acte d'état civil de vos parents, grands-parents. Donc tout ça, vous pouvez le faire. Mais ce serait pas sérieux de considérer que j'ai une carte militaire. Donc de facto, le grand-père était français et a transmis la nationalité. Je le dis souvent à cette radio, on a des personnes qui étaient de nationalité française, mais entre guillemets des sous-français. Vous avez le français de métropole, donc qui peut transmettre sa nationalité, et vous avez les j'aime pas le terme, mais c'est comme ça, hein, des sous-français. C'est-à-dire, vous êtes considéré comme français, mais vous ne transmettez rien de cette nationalité. Et dans la grande majorité des cas, c'était souvent la situation. Donc voilà, ne mettez pas tous les espoirs sur cet élément-là. Vous risqueriez d'être déçu. Maintenant, il n'y a rien qui, évidemment, vous interdit de tenter le coup. On a parfois des réponses qui vont dans le bon sens, et c'est tant mieux. Mais voilà, il ne faut pas que vous disiez le grand-père a fait l'armée, de facto, je suis moi aussi, en tout cas, il va me transmettre sa nationalité.
D'accord. Et c'est quoi la procédure, en fait, pour voir qu'elle a... C'est un citoyen français ou...
C'est à vous de diligenter la procédure. C'est-à-dire que pour ceux qui habitent hors du territoire français, c'est le service de la nationalité de Nantes qui est compétent en la matière. Si vous habitez sur le territoire français, vous vous adressez donc au tribunal d'instance de votre lieu de domicile. Alors il y a des formulaires à remplir, il faut établir votre filiation, il faut apporter évidemment des preuves et des éléments, hein. L'administration fera pas l'effort de les chercher pour vous, mais ça c'est légitime et c'est normal. Donc voilà, encore une fois, il y a rien qui vous interdit d'en faire la demande, mais c'est vrai souvent quand on nous contacte pour nous dire bah, j'ai un grand-père qui était français. Alors d'abord, j'ai pour habitude de dire, en particulier par définition pour les Algériens, de facto les grands-parents et arrière-grands-parents des Algériens d'aujourd'hui étaient tous français, mais ça voilà, ça c'est l'histoire qui veut ça. Mais je le redis, vous avez des personnes qui bénéficiaient d'un droit local spécifique. Donc on est français pour faire l'armée, on est français pour donner son sang, mais on ne transmet pas sa nationalité. Voilà, donc la France n'était pas si idiote que ça, hein. Donc ils avaient déjà prévu quelques parades.
Oui, ils sont malins, oui, c'est normal. Après, c'est tout le monde a fait la guerre. Donc...
Ouais. On sort du droit. Moi, je suis toujours surpris que 98% des Algériens sollicitent la nationalité française, alors que les parents, grands-parents ont donné leur sang pour que ce pays soit indépendant. Vous voyez, c'est-à-dire que moi, si j'étais français pure souche, je crois que je serais un peu plus radical pour dire vous êtes gentils les gars, mais fallait pas demander l'indépendance. Vous voyez, on est un peu schizophrénique. Oui. Français, on le supporte pas beaucoup, mais on aime bien venir s'y installer. Donc c'est un paradoxe que j'arrive pas par définition à expliquer, mais c'est très surprenant quand vous discutez avec des Algériens qui jouent les fiers et qui se baladent avec leur drapeau et puis qui font des pieds et des mains pour être de nationalité française. Parfois pour des raisons exclusivement pratiques, j'entends, je le comprends. Mais voilà, moi c'est un truc qui m'interpelle et pourtant ça fait plus de 20 ans que j'exerce. J'ai toujours du mal à comprendre. Chacun fait ce qu'il veut, mais enfin, je considère qu'il doit y avoir une logique dans notre histoire.
La bête a poussé son cri.
Non, mais c'est quand même curieux, non? Enfin, moi j'entends tout et n'importe quoi. Ils se sont sacrifiés, ils ont donné leur sang, on a eu notre indépendance, alors on joue les fiers et on danse, et on est content et c'est légitime. Et puis ensuite, ils font des pieds et des mains pour être de nationalité française. Moi, il y a un truc qui me souffle. Mmh. Mais bon, après, chacun fait ce qu'il veut. Et moi, je devrais, en principe, ne répondre qu'en droit.
Bien, exactement. Et comme on le dit, le proverbe populaire dit que chacun fait ce qu'il veut avec
absolument.
Ses cheveux.
Avec ses cheveux. Ouais, ouais. J'aime pas cette référence aux cheveux, mon cher.
Non, je sais. Et vous n'étiez pas visé.
Bon, je
vous me connaissez. Je suis le jour de la Saint-Valentin.
En plus,
je vous trouve très en cheveux.
Oh,
maître Serran. Bon, du coup, Kenza est parti.
Ouais. Énervé, non. Kenza al-Shaitan, pas énervé quand même.
Non.
Ah bon.
Non.
On vous embrasse, Kenza.
Samia, vous êtes avec nous.
Allô?
Oui, bienvenue Samia.
Bonjour Philippe, bonjour Matt Serran.
Bonjour
Samia. Comment ça va Samia?
Oui, alors écoutez Matt Serran, voilà, mon fils il est locataire d'un appartement à Paris.
Mm-hmm.
Son propriétaire lui ordonne de quitter l'appartement. Il est sans bail depuis le mois de décembre, car son bail s'est terminé le mois de décembre.
D'accord.
Il a dit de quitter l'appartement, mais comme c'était la trêve hivernale, bon, il est resté. Mais là, il lui a dit de quitter fin mars.
Mm-hmm. Enfin, il lui a donné un congé dans les délais normaux. Il n'y a pas de difficulté là-dessus. C'est-à-dire qu'il ne le prend pas pour lui dire il faut qu'il dégage. Il y a un courrier à recommander.
Il lui a dit il faut qu'il dégage. Comme,
d'accord, mais est-ce que ça a été fait dans les règles?
Ils lui ont dit qu'il ne peut pas le mettre dehors,
voilà.
Comme c'était alors, l'hiver. Alors,
Samia, juste pour comprendre, est-ce
oui.
que le propriétaire a fait ça dans les règles? C'est-à-dire, est-ce qu'il a envoyé, est-ce qu'il a donné
non.
congé à votre fils?
Non, il n'a pas envoyé de congé
ah,
à
voilà,
votre
c'est
fils.
Ça qui est important.
Non. D'accord.
Et tant qu'il n'a pas donné congé, tant qu'il n'a pas respecté la procédure, on ne peut pas demander à quelqu'un de quitter le l'appartement comme ça. On ne peut pas le chasser, ça ne fonctionne pas comme ça. À charge pour votre fils, s'il est de bonne foi, de continuer à régler son loyer le temps que ce propriétaire fasse le nécessaire.
Il y a un préavis.
Il y a un préavis.
Ah oui, il faut un préavis qui, quand même.
Ah bah oui, bien sûr. Donc il y a à minima un mois à respecter. Mais là, si vous me dites qu'il toque à la porte pour dire faut partir, non?
Oui, oui, c'est ce qui s'est passé, maître, oui.
Alors,
là, comme là, il est sans bail depuis le mois de décembre.
Le bail est arrivé à expiration.
Oui.
C'est quel type de bail? Est-ce que c'est un bail à durée indéterminée? C'était un bail, je ne sais pas, j'ai n'importe quoi, d'un an?
C'est un bail tous les trois ans.
Bah, madame, s'il n'a pas fait le nécessaire pour dénoncer le bail, comme on dit, ça se renouvelle automatiquement. C'est-à-dire que je ne peux pas venir vous voir à la fin de votre bail et dire « bon, jeune homme, faut partir ». Il y a des règles à respecter. Je dois vous prévenir suffisamment à l'avance pour vous dire « le bail va arriver à expiration, je n'envisage pas de le renouveler ». C'est son droit.
Oui.
Et à partir du moment où j'ai fait le nécessaire et que votre fils, pour une raison X ou Y, se maintient, je peux ensuite essayer de d'entamer une procédure pour l'expulser. Mais il y a des règles à respecter. Je ne peux pas venir en fin de bail et vous dire, écoutez, ça s'est terminé hier, faut partir aujourd'hui.
Il lui envoyait juste un mail pour lui dire, ben voilà, fin décembre, il faut que vous quittez. Je désire plus vous renouveler le bail, quoi. Comme ça. C'est-à-dire, il n'a pas fait les choses correctement, quoi.
Alors, on est du temps du recommandé avec AR, mais
oui,
certaines juridictions ne sont pas sensibles au fait de recevoir un licenciement par mail, une mise à pied par mail, un non-renouvellement de bail par mail. Donc la question peut effectivement se poser de savoir est-ce qu'on considère que juridiquement ça a été fait dans les règles. Après, si votre fils, pour une raison X ou Y, décide de se maintenir, je le redis, le propriétaire ne peut pas manu militari, c'est-à-dire il ne peut pas venir le prendre et lui dire « faut quitter les lieux ». Il sera obligé d'engager une procédure, il faut qu'il y ait une décision d'un tribunal et tout ça va prendre du temps.
D'accord.
Là, il continue de payer son loyer ou pas?
Il continue à payer son loyer. Hein,
pardon?
Tous les mois, il
ouais, voilà, c'est ce que j'allais vous dire. Quand on est de très mauvaise foi, on ne paye plus le loyer. Mais bon,
oui.
Il est quand même de bonne foi. Mais si, pour une raison X ou Y, il décide de se maintenir, le propriétaire ne pourra le mettre dehors qu'avec décision de justice.
D'accord, très bien, très bien. On ne savait pas tout ça, nous.
qui continue quand même, encore une fois, ça permet d'établir la bonne foi et pas forcément de mettre, je le redis, hein, le propriétaire n'est pas forcément la personne, une personne riche ou aisée. Ouais. Donc, il continue quand même de régler son loyer.
Non, non, tous les mois, il est ouais. son loyer. Il
voilà, c'est quand même un élément qui établit la bonne foi de l'intéressé. Ouais. Mais je ne peux pas le mettre dehors sans décision de justice. Ça, c'est une.
Ah, d'accord, ouais, il faut qu'il passe par la justice alors.
Alors évidemment, si on peut l'éviter, si votre fils trouve un point de chute pour quitter volontairement l'appartement. Mais si, pour une raison X ou Y, il décide de se maintenir, il faut qu'il y ait un jugement, bien sûr.
Oui, même là, comme il est au chômage, alors pour trouver un appartement quand on est au chômage, c'est un peu compliqué, quoi.
Ouais, j'entends bien. Après, je comprends, hein, et on défend souvent des locataires. Ça ne m'interdit pas de comprendre aussi la position des propriétaires. Je le redis, parce que si votre fils paye depuis toujours, on se dit qu'il n'y a aucune raison que le propriétaire veuille se débarrasser de lui, c'est qu'il y a peut-être une bonne raison, peut-être vendre le bien, peut-être le remettre à un membre de sa famille.
Puis oui, il y a des règles c'est aussi. Pour le louer à son fils.
Voilà, donc il y a aussi ça. Donc je peux aussi comprendre la situation des propriétaires.
Oui.
Voilà, hein, tout n'est pas blanc ou noir, hein, évidemment, dans son genre de situation. Mais... si votre fils se maintient, il faudra une décision de justice.
Ah, d'accord, okay. Très bien, maître. Merci beaucoup.
Merci pour votre appel.
C'est gentil de votre part. Merci, maître. Au revoir, Philippe.
Au revoir.
Merci, Samia.
Je vous en prie.
Est-ce qu'on a le temps d'accueillir Attika rapidement? Attika, bonjour et bienvenue.
Oui, bonjour. Bonjour, maître.
Bonjour, Attika.
Bonjour. Oui,
vous avez l'air troublé quand je dis bonjour, Attika. Ça vous trouble? Non, ça vous trouve un peu quand même, hein? Ah, Attika, coquine. Allez, on vous écoute. C'est à Saint-Valentin, c'est à Saint-Valentin.
Merci. Et bon fête pour les couples. Bien que, comme la dame, c'est ce qu'elle venait de dire, j'y crois pas tellement. Donc la fête, c'est tout le temps quand on est en couple. Mais bon.
C'est vrai, c'est vrai que les filles croient plus à Saint-Valentin.
Voilà.
Ils croient qu'à l'argent. Le monsieur.
Ouais. Bon, j'ai posé ma question.
Bien sûr. On est là pour ça, dites.
Je vais répondre à la question d'une dame aussi qui a parlé pour sa mère ou sa grand-mère qui n'était pas divorcée.
Oui.
Légalement. Oui, parce que ça m'est arrivé même moi, alors que bon, entre moi et sa grand-mère, il y a quand même, voilà.
Comme deux générations.
Génération. Mais le problème se pose même actuellement. Donc, quand on a double nationalité, on est divorcé ici, on est né ici, mon mari il est né ici, et par rapport à l'Algérie, il n'est pas divorcé, donc il est toujours marié avec. Donc, alors, si on a un bien en Algérie, il faut que ça soit partagé avec sa femme, alors qu'elle, elle est mariée, elle a des enfants. Donc, il faut faire une autre procédure, c'est ça ce que je ne comprends pas. En Algérie, il faut voir un avocat et faire les démarches pour un deuxième divorce. Donc, voilà, en Algérie, c'est comme ça.
D'accord. Il n'y a pas d'exéquature, comme on dit, ou de...
Ouais, il n'y a pas de lettre.
Non, mais j'ai cru comprendre que cette personne a ou aurait déjà été divorcée en Algérie. C'est encore plus compliqué. C'est le grand-père de cette personne qui aurait géré la situation, d'après ce que j'ai cru comprendre.
Parce qu'en Algérie, ils divorcent des fois, voilà, c'est verbalement, mais peut-être que ça, j'ai pas bien compris.
Ouais.
Mais bon,
Attika, vous nous rappellerez quand vous aurez compris le truc, parce que vous nous appelez pour nous éclairer, on comprend encore.
Non, ça fait plaisir à parler. Ouais.
Ah bon, alors si ça fait plaisir.
Parce que, mon mari, son ex-femme, elle est née ici. Donc, ils ont divorcé là, elle s'est mariée, lui s'est marié avec moi. Mais quand je me suis rendu compte en Algérie qu'il est toujours marié avec sa femme, donc il faut faire une procédure là-bas.
Ah, bah oui, s'il n'a pas renouvelé sa procédure au pays, oui, il sera toujours marié avec l'intéressé.
Oui, mais c'est bête ça. Normalement, de là, ça part là-bas. Donc, il y a un contact entre les administrations.
Ouais. Éviter de se marier aussi, non? On peut conclure le truc comme ça, non? Pas obligé de se marier.
Vous dites ça le jour de la Saint-Valentin?
Oui.
Il faudra dépenser aussi, faire des avocats là et là-bas, je pense que c'est ça. Mais bon, ok, bon, ça c'est...
Bon,
ma question est...
Alors, non, parce qu'Attika, on n'a plus le temps. Notez le numéro de Maître Serran. Attendez, est-ce que vous pouvez le noter?
Oui.
Allez-y.
06
oui.
62 58 59 64. 06 62 58 59 64.
Et voilà. Et vous l'appelez après l'émission, Attika.
D'accord. D'accord, ok. Merci.
Merci, gros bisous, Attika.
Merci, au revoir.
Maître Serran, à vendredi.
Avec plaisir.
Dans un instant, c'est l'islam au présent et Ismaël Mounir est avec nous.
Retrouvez AVS tous les jours de 9h à 10h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.